La question est difficile. Quand on regarde les usages de ChatGPT, il y a trois types d'usages. Il y a un type d'usage qui correspond à de la formulation. On est sur la forme du texte, donc on donne un certain nombre d'idées, y compris des idées très en vrac, hein, des notes de réunion, et on veut un compte-rendu, on veut une lettre de recommandation, on veut une lettre de motivation, on dit simplement ce qui nous intéresse, les éléments marquants, et le logiciel se charge de la mise en forme. Et c'est un as de la mise en forme, c'est-à-dire qu'on peut lui demander ensuite plus court, plus formel, plus familier, et il est capable de retravailler un certain nombre de choses. Au bout d'un moment, on obtient quelque chose, un texte, qui est rapidement exploitable. Il y a un autre usage qui est vraiment l'accès aux connaissances. Il est un petit peu plus dangereux, mais on s'en sert quand même. On fait du brainstorming, on cherche à identifier un petit peu les idées qui sont intéressantes, construire un plan de cours. Là, on est vraiment dans de l'accès aux connaissances. Tout n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'il donne ces réponses-là très rapidement. Et si au début du dialogue, on est sur quelque chose de bateau, puisqu'on interroge un modèle de langue en général sur la partie où on est expert, petit à petit, en lui demandant de développer des sous-parties, de proposer des idées associées à des thèmes, eh bien, il y a du déchet, mais on obtient aussi des choses qui sont très intéressantes. Et donc là, on est vraiment dans de l'accès aux connaissances. C'est un autre usage. Le dernier usage classique, c'est l'analyse de documents. Donc chercher des réponses dans des bases documentaires, mais à l'aide d'un dialogue, donc c'est de la recherche d'informations conversationnelles. Simplement, on ne demande pas au modèle de langue d'être la source des connaissances. On veut qu'il nous serve d'outil d'analyse des documents. Donc les usages pour les enseignants, ils correspondent un petit peu à ça. Il y a beaucoup de brainstorming sur la partie génération de contenu, interrogation des connaissances. Et puis, il y a beaucoup de mise en forme. Aujourd'hui, beaucoup de doctorants, beaucoup d'enseignants utilisent au quotidien ChatGPT pour simplement rédiger un polit de cours, rédiger un article scientifique, rédiger une proposition, un appel à projet. Ça devient un outil dont on a du mal à se passer, notamment sur ce premier jeu de compétences de mise en forme des idées. Au premier abord, je pense que l'outil a un côté magique qu'il faut très vite dépasser, puisque en fait c'est un outil qui est là pour prédire des mots et qui le fait très bien, mais qui ne fait que prédire des mots. Il faut se rendre compte de tout ce que l'outil ne sait pas faire et de tous les moments où l'outil introduit des erreurs. Maintenant, pour un enseignant qui justement est quelqu'un d'expérimenté dans le domaine, ça doit être quelque chose qui est très rapidement visible. L'exemple le plus amusant, c'est de réaliser une bibliographie sur un sujet un petit peu spécifique. Ça marche dans quasiment tous les domaines. L'outil répond systématiquement. Et effectivement, on tombe tout de suite dans des hallucinations puisqu'on est sur de la connaissance qui est assez pointue, qu'il n'aura pas vu beaucoup sur Internet. Et donc, la bibliographie va avoir une forme parfaite avec des citations, des résumés d'articles, voire même des mises en correspondance d'un article par rapport à l'autre. Et en général, tout est faux. Le titre des articles, le nom des auteurs, les années, les points de vue sont justes. Donc les résumés correspondent à des vrais algorithmes. C'est très trompeur, mais on est dans le décor, quoi. C'est parce qu'on est sur de la connaissance rare sur laquelle le modèle n'est pas pertinent. Donc les points de vigilance, c'est vraiment la véracité des réponses lorsqu'on utilise l'outil pour de l'accès à la connaissance. Le modèle de langue, il est optimisé sur un critère de vraisemblance. Donc, il sort des suites de mots qui sont vraisemblables. Ça veut dire qu'il voit très bien dans le schéma d'une phrase quand est-ce qu'il s'agit d'un lieu, quand est-ce qu'il s'agit d'une date, quand est-ce qu'il s'agit d'une personne. Et la phrase globale va avoir une cohérence très très forte. Maintenant, le modèle ne sait pas dire non et le modèle ne sait pas s'auto-évaluer sur la confiance qu'il a dans quelque chose. Donc, il génère des mots, il génère des mots, il génère des mots. Et régulièrement, il se trompe de personne, il se trompe de date, il se trompe de lieu, il se trompe de connaissance. Et tout en restant extrêmement crédible. Le fait de mêler la crédibilité avec des erreurs, c'est une hallucination. J'utilise régulièrement ChatGPT. Je l'utilise un petit peu pour la mise en forme d'articles scientifiques et de projets de recherche. C'est un rédacteur hors pair. Je l'utilise aussi pour la rédaction de lettres de recommandation. C'est pareil, c'est remarquable, hein. Faut retoucher à la marge. On n'utilise jamais le résultat brut, mais on gagne énormément de temps sur ces aspects-là. Je l'utilise aussi à la maison avec mes enfants sur certains devoirs et pas d'autres pour aller plus vite, avoir des idées, trouver des slogans.